Il y a de grands événements sportifs et il y a de très, très grands événements sportifs. Et la finale hier de Wimbledon entre Roger Federer et Novak Djokovic fait partie de la deuxième catégorie. Une rencontre qui va passer à l'histoire. J'en parle avec Hélène Pelletier. Hélène, c'est des émotions extraordinaires. 5 heures de tennis absolument folle. Un spectacle qu'on n'aurait jamais pu imaginer, même si nos attentes sont grandes quand deux légendes comme Djokovic et Federer s'affrontent. Mais ça a été au-delà de toutes les espérances.
Ouais, puis c'est fou, hein, parce que Roger Federer a presque 38 ans. Il aura 38 ans le 8 août prochain. Même date que Félix Auger-Aliassime, ouais, qui est assez comique. Il était à la porte d'un triomphe extraordinaire. Parce que ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que battre coup sur coup en demi-finale Rafael Nadal, puis enchaîner avec Djokovic, personne n'a fait ça. Il n'y a eu que Stan Wawrinka en 2014 aux Internationaux d'Australie. Et on ne pourra pas dire que Federer n'est pas en forme, puis on pourra pas dire qu'il n'a pas un jeu de jambes absolument extraordinaire, parce qu'il a eu 2 balles de championnat à 8-7.
À son service, c'est lui qui sert, là.
Je sais, écoute, il y a eu, puis c'est ça qui est dommage, parce que moi, honnêtement, là, j'étais abasourdi. Je revenais dans la voiture, puis je me disais, mais c'est pas possible qu'il ait perdu ça. Tout le monde était tellement, tellement triste, parce ouais. que, je te dirais, 90% des gens sur la planète était évidemment en train de supporter, puis même au All England, à l'intérieur du temple, je te dis, à part quelques gens qui, évidemment, avaient des drapeaux de la Serbie bien, bien hauts, criaient pour leur numéro un mondial, le grand Novak Djokovic, mais à part de cela, tout le monde était acquis à la cause de Federer, parce que c'est formidable essayer de faire ce qu'il essayait de faire. Puis il était à la porte de la victoire, puis il y avait plein de moments, Philippe, où je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Federer ne s'était pas imposé. Par exemple, OK, premier set. Hein? Il y a eu juste une balle de bris, c'était à 2-1. Federer passe à côté du moment, ça arrive, et c'est pas comme s'il n'avait eu 12. On se retrouve au bris d'égalité, il mène 5-3 avec un service à suivre. Et il perd. Il fait plus un point, il perd 7-5 le bris d'égalité. Même chose du côté de la manche numéro 3. Même chose, tire de l'arrière 5-1 cette fois-là, mais recolle tout près de Djokovic à 5-4. Puis là, on est sur le bout de notre chaise, les jointures blanches. On dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va être capable de produire? Djokovic va finir par craquer. Mais non, Federer ne fait plus un point et perd le bris d'égalité 7-4. Puis évidemment, le fait de se rendre à ce fameux bris d'égalité maintenant instauré à 12-12, 5e set, là, il passe carrément à côté du bris d'égalité et Djokovic va chercher la victoire. Puis d'autres moments, il est sublime. Set numéro 2, il va chercher le set facilement 6-1. Set numéro 4, ça, j'ai un petit peu moins aimé parce que à nouveau, il a démontré de la nervosité, Philippe. Lorsqu'il a servi la première fois pour la manche à 5-2, il est complètement passé à côté du moment. Puis en même temps, on se dit, ben c'est pour ça que c'est pratique d'avoir 2 bris d'avance face à Djokovic. Tu sais? Puis au moins, il l'a fait à nouveau à 5-4. Mais plein de moments. On n'arrive pas à s'expliquer pourquoi le grand Roger Federer sur herbe jouait principalement un peu trop en fond de terrain. Et sur ses 2 balles de championnat, rate un coup droit d'échange en voulant aller en décroiser. Et sur le 2e coup de point de championnat, il monte au filet comme on va au marché. Alors Djokovic avait juste à pousser la balle en croisée du coup droit, avait 2 petits pas à faire, on tourne les épaules puis vlan en croisée. Alors c'était dommage parce qu'il lui a manqué cette petite confiance qui fait toute la différence. Et du côté de la confiance, est-ce qu'on peut dire que Novak l'a?
Mais juste avant, juste pour revenir sur la déclaration de Federer, Hélène, après le match, il dit « ça va être difficile pour moi de penser à toutes ces chances ratées ». Puis il dit « bon, heureusement, j'ai cette capacité-là, et je paraphrase un peu, j'ai une mémoire courte, je suis capable d'oublier mes mauvais moments parce que je peux pas être gêné non plus d'avoir joué un match de tennis comme celui d'aujourd'hui ». Mais il n'en reste pas moins que là, il avait l'occasion de se distancer un peu dans l'autre enjeu. Parce qu'il y a le tournoi, il y a le championnat de Wimbledon hier, bien sûr, mais on sait très bien aussi que Federer, Nadal et Djokovic se battent aussi pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem en carrière. Et là, il y a la question de l'âge qui joue aussi. Federer est le plus vieux, il y en a 20. 20 titres, Nadal en a 18. Et là, il y a Djokovic qui arrive, qui est plus jeune, 5 ans plus jeune que Federer, plus jeune aussi que Nadal. Et là, lui, il en a déjà 16, là. Et cette bataille-là, elle est féroce aussi parce que Nadal, après avoir perdu en demi-finale contre Federer, il le dit. Il dit, j'aurais pas mille chances de le rattraper, là. Alors, il y a tout ce combat-là qui est en filigrane, oui, qui est pas mal intéressant aussi.
Oui, c'est fort intéressant, effectivement. Puis c'est sur gazon où Federer peut quand même... tu as vu comment il gambadait en deuxième semaine. Ça,
ouais,
c'est extraordinaire à son âge, quand la plupart des gens font peut-être trois fois de l'exercice, une heure parfois par semaine. Lui, il est là à se défoncer pendant cinq heures de temps, puis à être rapide de la première jusqu'à la dernière balle. Mais il y a aussi l'aspect mental. Tu sais, ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas battu.
Ouais.
Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis on dirait que Djokovic, écoute, moi j'admire sa façon de se comporter lorsqu'il y a un moment chaud.
Ouais.
Et s'il y a quelqu'un sur le circuit qui a un instinct de survie, c'est bien lui. On dirait qu'il n'est jamais battu tant que la balle sur balle de match n'a pas bondi deux fois de l'autre côté. Il trouve toujours une manière d'y aller d'une parade, de s'étirer de tout son long, de produire un schéma de jeu inhabituel. Il s'accroche, il est là. Mais Federer l'avait évidemment... Peu importe ce que je dis, on le sait bien que Federer, c'était à lui ce match-là, puis il est passé malheureusement à côté.
Voilà, puis tu sais, tantôt j'en parlais, puis je veux revenir un peu sur Djokovic. Tu disais toi-même que la foule était pour Federer de façon, tu sais, presque...
Outrageuse.
Ouais, voilà, exactement. Et Djokovic, lui, il est là. Il se retrouve là, puis il n'y a personne à part les gens dans son clan là, qui prennent pour lui. C'est très difficile. Et il l'a reconnu après le match. Et il a dit, dans ce temps-là, il dit, il faut que tu trouves la force de te battre à l'intérieur de toi. Et moi, j'ai été très impressionné par ce commentaire-là. Parce que là, c'est vraiment le commentaire d'un athlète d'élite. Là. L'autre joue mieux que lui. La foule ne prend pas pour lui. C'est difficile. Il doit se battre tout le temps. Il fait face à deux balles de match. Puis il revient, puis il gagne. Oui. C'est extraordinaire comme résilience.
Mais tu sais, en plus, il y a un élément qui... Je pense qu'il y a un exemple. Il donne un exemple parce qu'il a un tout petit peu parlé de tous les exercices de visualisation qu'il fait à chaque jour. Et avant de jouer un match, tout particulièrement, il a fait des exercices. Il a raconté un tout petit peu tout cela après sa finale gagnée hier. Il a dit... Moi, j'étais préparé pour ce match. Il n'y avait rien qui allait me déranger parce qu'il le savait que les gens allaient être fou.
Je suis pas sûr, Hélène, qu'il avait visualisé que deux balles de match, il sauverait ça au service de Federer, par exemple.
Mais il l'a déjà fait au US Open.
Ah, c'est vrai,
il y a quelques années.
Ouais. Alors.
Il dit, tu sais, quand je me suis même préparé mentalement, alors que la foule criait Roger, je me suis programmé à entendre Novak. Hey, c'est fort.
Ah, c'est extraordinaire.
Il travaille derrière ça.
Ouais.
Pour nous tous, là, dans nos métiers, on a une leçon à apprendre de ça.
Ouais. Hélène, il nous reste peu de temps, puis il y a deux sujets qu'on aborde, alors il va falloir qu'on y aille rapidement. D'abord, la victoire extrêmement convaincante de Simona Halep sur Serena Williams. Je pense que Serena est restée très surprise.
Oui, puis un autre exemple de force mentale du côté de Simona Halep. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui la plaçait gagnante à Wimbledon, et elle-même disait, je suis bien trop petite, il y a tellement de grandes filles qui servent fort sur le circuit, j'ai de la difficulté. Mais elle aussi a réussi à y croire après un travail extraordinaire avec un psychologue pour essayer de rester positive. Darren Cahill, celui qui était à ses côtés lorsqu'il a gagné Roland-Garros, l'a aidé beaucoup. Et évidemment, les nouvelles personnes qui l'entourent. La différence avec Simona, c'est qu'elle y a cru parce qu'elle était encore très, très en jambes. Et Serena, ben, va falloir jouer plus. Hein. Je pense qu'elle aura des chances au US Open. C'est prévu qu'elle joue et à Toronto et à Cincinnati avant New York. Elle a dit, maintenant, je n'ai plus besoin de gens autour qui essaient de me convaincre que je suis bonne. J'ai ça à l'intérieur de moi. Et ça l'a porté pendant toute la quinzaine. C'est vraiment une histoire incroyable. Une fille qui a beaucoup, beaucoup donné aux démunis de son pays, aux gens dans le monde qui souffrent. Elle donne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec sa fondation. Et bien là, c'est comme si la vie lui remettait une belle surprise.
Ouais, c'était une super victoire. Puis aujourd'hui, ben après Wimbledon, le tennis se poursuit. Et la 95e joueuse mondiale, c'est son nouveau classement, Eugénie Bouchard, qui disputait la première ronde d'un tournoi à Lausanne. Elle a été battue en 3-7 par la 142e au monde. Une Allemande qu'on appelle... Tamara Korpach.
Oui.
Donc, ça va pas mieux pour Eugénie Bouchard.
Mais ça a été un match. Ma sœur et ses trois enfants ont été invités, imagine-toi donc, parce qu'elle s'est préparée avec la fille de Manuela Maleva, qui a marié un coach de tennis qui enseigne à ma sœur. En tout cas, enfin bref, Isabelle, ma sœur, était là présente pour son match, puis elle m'a raconté, puis elle m'a envoyé plein de photos à la fin. Eugénie s'est quand même super bien battue. Un match qu'elle a perdu en 2h36. Elle tirait de l'arrière, Eugénie, 4-1 au troisième set. Elle a remonté, a mené 5-4, Philippe. A eu balle de match, mais comme Federer, elle passe à côté. Alors, tu sais, il n'y a pas grand-chose. Puis la bonne nouvelle, c'est que tout de suite, après son match, elle est allée s'entraîner. Il y a un coach qui l'aidait, un coach allemand que ma sœur ne connaissait pas. En tout cas, elle est allée s'entraîner tout de suite après cette défaite de 2h36. Bon. Alors, je lui souhaite de retrouver le chemin de la victoire.
Il faut qu'elle continue de se battre. Merci beaucoup, Hélène Pelletier.
Ça fait plaisir, Philippe.
Et puis nous, on revient tantôt avec Ray Lalonde et Ray va nous parler des Alouettes. Comment ça se passe dans le bureau d'une équipe quand une nouvelle comme celle d'hier à propos des Alouettes sort? C'est pas facile, on en discute avec Ray.